Bienvenue sur Toutes sortes de gens, cinquième et dernier épisode de l'année. Je suis avec Sébastien Robert, un vieil ami à moi, un homme qui a beaucoup de casquettes. C'est un écrivain, un scénariste, un réalisateur. Sébastien a eu plusieurs vies, il a beaucoup voyagé, il a vécu 2 ans en Autriche. Et avec Sébastien aujourd'hui, bah, justement, on va parler de ça. On va parler de la vertu des voyages, de ce que ça a pu t'apporter toi, de la capacité justement à mener de front une pratique artistique sérieuse, à savoir avec une ambition en fait professionnelle, ambition donc d'être réalisateur ou écrivain ou scénariste ou tout ça à la fois, et l'obligation dans le monde dans lequel on vit, obligation qui est réelle pour moi, pour toi, pour tous les aspirants artistes, de faire un boulot alimentaire à côté, et la capacité, ou pas d'ailleurs, mais toi je pense que c'est plutôt le cas, de trouver du sens, même dans un boulot, même alimentaire, même assez éloigné de ta vocation première au départ, qui est la vocation de création en fait. Alors Sébastien, on a une tradition à Toutes sortes de gens, c'est que l'invité choisit ce qu'on va boire pendant la discussion. Donc là il est 11h du matin et on est devant un super petit café noir. Je t'avais demandé si tu voulais du sucre ou du lait, tu voulais ni sucre ni lait, tu bois du café noir tel quel.
Tel quel.
Pourquoi on boit du café noir, Sébastien?
Je dirais que c'est le plaisir, le réel plaisir d'avoir du café quoi. Ouais. C'est le café qui est lié directement au plaisir, tu vois. Tu ouvres ta fenêtre, il fait beau, t'as un café, c'est bon.
T'as rien de besoin, voilà, de plus, quoi.
C'est genre le simple plaisir du café, quoi.
Et tu t'en sers comme outil de concentration quand tu travailles?
Ouais, beaucoup. Même comme outil de création.
Ouais.
C'est vraiment, je me dis, bon, bah, il me faut un café avant d'écrire ou pendant que je vais écrire. Mais je l'ai toujours, même depuis que je suis tout petit, mes grands-parents buvaient et ça sentait, la première odeur que tu sentais dans la maison, c'était le café.
Ah, c'est une madeleine de Proust. En
voilà,
fait.
C'est complètement une madeleine de Proust. Du coup, il y a la vertu du café, mais la nostalgie du café et tout ce que ça peut raviver comme souvenir. Du coup, en tant qu'artiste, c'est...
Ah bah ouais, en tant qu'artiste, ça te met en lien.
Ça te met en lien direct avec...
avec ton passé. Quoi.
Avec le passé.
Et avec du coup des souvenirs, des images, des formes.
Voilà, complètement.
Ouais. Comme ça.
Ouais, ça ramène à plein de choses.
Sur quoi tu travailles en ce moment en tant qu'artiste?
Alors, là concrètement, il y a un livre, à la base c'était plus une histoire,
ouais.
Donc qui me suit un peu depuis assez longtemps, et que j'essaie de retranscrire en livre. Mais du coup, le livre devient autre chose, donc le roman, j'essaie de traduire cette histoire en roman, et le roman devient autre chose, et je sens que cette histoire va devenir un scénario.
D'accord, mais, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que tu parles de Météora.
Voilà.
Donc ça, depuis... je vais la faire pour nos auditeurs.
Oui, oui, bien sûr.
Depuis 10 ans, effectivement, tu as un scénario que tu portes en toi. Moi, je me rappelle qu'il y a 10, mais même voire 12 ans peut-être, je crois que j'avais 20 ans exactement,
ouais.
Tu m'avais fait lire ce scénario. Et c'était un pilote, en fait, de série télé. Oui. Est-ce que tu veux que je dise un peu l'histoire telle que je m'en souviens, ou est-ce que tu veux nous dire l'histoire, toi, admettons?
Comme tu veux.
C'était sur une école. Ça se passait dans un monde un peu parallèle. On ne peut pas vraiment dire que c'est le futur. On ne peut pas vraiment dire que c'est notre monde. Donc on va poser ça comme un monde parallèle dans lequel il y a une sorte d'énergie, telle d'ailleurs qu'on peut l'entendre dans notre monde à nous aussi. C'est-à-dire, tu vois, le chi, le karma, l'énergie cosmique, mais qui est beaucoup plus palpable dans ce monde-là et qui permet justement d'avoir des gens qui ont des capacités quasi surhumaines et de maîtriser leur environnement beaucoup mieux que ce que nous on peut faire. Et dans ce monde-là, du coup, il y a une école qui prend en charge des enfants surdoués,
des enfants abandonnés.
Des enfants abandonnés et qui en fait des tueurs.
C'est... oui.
Des guerriers.
Des guerriers, oui.
Des guerriers, plutôt. Et moi je me rappelle d'un scénario empreint de mystère où il y avait un enfant qui s'était échappé de l'école, un autre qui s'était rebellé activement contre l'école et qui menait maintenant une espèce de résistance face justement à cette entreprise de militarisation des enfants. Et il y avait tout un truc sur la violence des adultes envers les enfants et l'inconsidération des enfants en tant que personnes, mais qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la vraie vie. Moi ça m'avait vachement fait résonner justement ce scénario. Et donc là, du coup, t'as essayé d'en faire un roman, c'est
ouais,
ça? et tu te dis que maintenant ce serait plutôt un film.
Ouais.
Un scénario de film, du coup.
C'est beaucoup plus graphique, et du coup, beaucoup plus visuel pour, ouais. Pour l'image. En fait. Mm-hmm. Plus je m'en rends compte que le roman, c'est. Ouais, c'était une première base qui allait m'emmener vers, vers le côté visuel.
C'était la structure, en fait.
C'était la structure, ouais. Mais il fallait poser quand même les bases de l'histoire. Quand même, il fallait poser vraiment les bases, chaque base de l'histoire.
Ouais, bien sûr, l'architecture.
Voilà, pas que ça reste non plus que mental et dire à un moment, on prend un papier. Ouais. Là, faut le faire à un moment, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est clair. T'as fait ça en Auvergne ?
Donc, je me suis installé en Auvergne pendant un mois, voilà, tout seul. Et du coup, avec mon ordi, j'ai commencé à écrire les premières bases, en tout cas, de l'histoire.
T'es parti un mois comme ça en Auvergne, mais spécifiquement pour faire ça ? T'avais en tête de finir ce scénario, ou ce roman d'ailleurs, à l'époque ?
Ouais.
Qui te rentait, enfin qui te rentait, que tu portais depuis plusieurs années, quoi.
Ouais, ouais. Okay. Ouais, c'était, ouais.
Et alors, est-ce que t'as eu une appréhension à partir tout seul comme ça en Auvergne ? Surtout que toi, t'es un Parisien, t'es plutôt un citadin au départ. T'as fait quand même un choix qui est globalement assez... assez contre-intuitif, enfin contre-intuitif pas vraiment, mais assez couillu, dirais-je, de partir au milieu de la nature presque. En fait, t'étais dans un village de quoi ?
Un village de, ouais, 5000 habitants.
Ah ouais, ouais.
Voilà. Bon, mais bon, dans la campagne, c'est ouais. pas en ville, quoi. Ouais, c'est ça. Y a le village et y a rien autour. Y a une ligne de train, c'est tout.
En plus, t'avais pas le permis.
T'es non, j'avais pas le permis.
T'es parti sans permis au milieu.
J'avais un vélo. J'avais un vélo là-bas.
T'étais à combien de temps de la ville la plus proche ?
Et la ville la plus proche, la plus grande ville, c'était Clermont-Ferrand. On était à une heure et quart de train.
De train ou de vélo ?
De train. De train, donc quoi, vélo, ouais. T'es à 3 heures. 4 heures.
Moi, je suis un pur citadin, je crois que j'aurais des attaques de panique si ça
m'arrivait. Ça peut faire un peu peur.
T'as vu ça, ouais, toi ?
Bah, ouais, j'avais déjà expérimenté l'Auvergne. Mais l'Auvergne, là, c'était l'Auvergne profonde,
ouais.
Dans le, du coup, chez des amis qui avaient une ferme.
Ouais.
Et du coup, eux, ils voulaient vraiment juste le calme absolu.
Ouais.
Et du coup, j'avais testé, je crois, une semaine,
ouais.
Où j'avais pas de voiture, et j'étais dans une maison, enfin dans une ferme, du coup,
ouais.
Avec... personne, il n'y avait personne autour.
Et tu étais pour faire quoi, ça ?
Et là, c'était pour aussi écrire, un scénario.
Et toi, ça c'est un processus que tu aimes bien, du coup, l'isolement dans la nature, ça t'aide ou...
Ouais, ouais, ça fait vraiment peur au début, parce que ouais. y a toujours le fantasme et la réalité.
Ouais, ouais, l'écrivain perdu dans sa cabane,
voilà,
c'est moi. C'était la civilisation.
Tu comprends toujours assez bien, moi je crois que j'aime beaucoup ce rapport de dire ah, c'est bien de boire beaucoup de café, parce que t'as l'espèce de fantasme, t'as un fantasme d'être... Puis tu te rends compte que si tu bois trop de café, c'est pas bon.
T'as
de la tachycardie, tu paniques, tu te dis bon, je vais aller m'exiler une semaine, deux semaines, un mois... En Auvergne, au milieu de la nature, c'est beau.
Avec les bolettes.
Bah, en fait, c'est beau, mais la nuit, t'es tout seul, y a personne.
Ah ouais.
Et du coup, la ville la plus proche, ouais, elle était aussi à une demi-heure, une heure.
Et y avait
en
des
voiture,
bruits.
Quoi.
Y a des bruits qui font.
Bah oui, y a des bruits. Y a des bruits qu'on n'entend pas du tout en ouais. Ville, quoi. Mais t'as tellement une autre ambiance où t'ouvres les fenêtres. Tu te dis, il y a une vie sauvage et moi je ne devrais pas être là.
Je n'ai pas la capacité de survivre longtemps ici.
Ma vie doit être en ville, entourée de mes semblables. En plus, tu as même le. Du coup, quand tu pars aussi
ouais.
Dans des endroits vraiment où il n'y a que la nature, ouais. Tu ressens la même fatigue parce que tu arrives où tu es hyper stimulé en ouais. Ville et tu arrives dans un endroit où tu as. La seule stimulation, c'est la nature. Et donc, tu es beaucoup moins stimulé et tu arrives dans un calme. Du coup, tu as un silence absolu. Et du coup, tu as une espèce de fatigue aussi qui devient naturellement de...
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton corps qui s'autorise à ressentir la fatigue nerveuse qui était déjà là. Quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'en fait, on est fatigué nerveusement en vie.
Je pense qu'il y a la stimulation qui est positive. Je voyais que... C'est pas pour rien aussi que les humains ils se sont rassemblés
bien sûr, ouais.
En ville, c'est pour être ensemble, ouais. Bon, pour pas être. Voilà. C'est assez ouais. Animal aussi. Mais du coup, la stimulation d'une ville, moi, c'est hyper positif.
Ouais.
Et en même temps, dès que tu arrives ouais, dans un endroit où il y a désert, entre guillemets, mais qui n'est pas du tout désert, bah, pareil. Tu as une sorte de repos.
Mais ce qui est marrant, c'est que, à t'entendre, on se dit que. C'est vraiment deux sortes de stimulations différentes. Quand tu dis la stimulation d'une ville, par exemple, qu'est-ce que tu entends? Sur toi, enfin l'effet que toi ça te fait, tu vois?
Ouais, moi j'ai toujours, en même temps, je vois que j'ai toujours vécu du coup en ville.
Ouais.
Et en même temps, j'avais mes deux grands-parents, enfin mes grands-parents, du coup paternels qui vivaient en Normandie près de la mer, donc dans un endroit assez calme aussi. Et mes grands-parents maternels qui vivaient dans les Pyrénées, du coup proche de la montagne, donc dans un endroit aussi assez tranquille.
Ouais.
Du coup, je pense que j'ai été un peu. Et moi, j'habitais en banlieue parisienne, du coup, dans la ville, quoi. Dans une...
ouais.
Du coup, je pense que j'ai été élevé en même temps dans cette stimulation citadine.
Ouais.
Et en même temps, les vacances, c'était le moment où
tu
te poses, tu sors. Mais il y a ce rapport à la ville, ouais. J'ai pu le vivre des fois un peu trop intensément en disant il y a trop de stimulation. Et en même temps, je sais que c'est une envie aussi de retour un peu, toujours un peu à la civilisation.
Ouais. Mais du coup, c'est plutôt en rapport, la stimulation, c'est plutôt de l'ordre de la. De l'appétit de la culture, de...
Ouais, de l'appétit tout court. Je trouve que c'est... Quand je suis parti, par exemple, en Auvergne,
ouais.
Il y avait un manque de cette stimulation-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains, quoi. Je ne vivais pas au milieu de beaucoup d'humains. Du coup, la stimulation, juste... tout court, il y a un appétit de voir des gens, voir ce qui se passe. Un appétit de vie, quoi.
Autant il y a une stimulation de la ville qui a l'air forte chez toi, autant... quand tu veux écrire, quand tu veux poser sur le papier ce qui est en toi, et ben régulièrement tu t'évades de la ville.
Pour prendre l'exemple de l'histoire de Météora,
ouais.
Qui est en fait des enfants qui vivent dans une école à l'extérieur d'une ville, qui vont devoir, dans l'histoire, attaquer la ville.
Mmh.
Et du coup, il y a vraiment deux univers, pour moi qui était assez visuel. D'un côté, la ville grouillante et la jungle, il y avait la jungle urbaine et la jungle naturelle. Et du coup, je me suis dit, oui, c'est deux décors qui me parlent beaucoup et dans lesquels je me sens assez à l'aise dans les deux. Mais je vois pas la ville comme quelque chose, un mal, et la campagne comme quelque chose d'idyllique.
Ouais, la réalité est jamais parfaite, en fait.
Non, c'est la réalité, elle est là, quoi.
C'est terrible.
Il n'y a pas le... Ce qui est marrant, ça me fait penser à une anecdote assez drôle, parce que ça, après, on pourra en parler, mais du coup, en Autriche, du coup, c'était la deuxième année, enfin, j'ai été assistant de français.
Ouais.
Et je vivais à Vienne. Et les endroits où je travaillais, c'était toujours des villes à 2 heures de Vienne.
Ouais.
Du coup, plus à la campagne, en fait, des petites villes. Et en fait, il y avait une autre assistante qui était, elle, assistante d'anglais.
Mmh.
Du coup, en fait, le travail d'assistant, c'est d'assister le professeur qui n'est pas natif. Et toi, tu viens en tant que natif et tu dis, voilà, on va faire, on va parler, je vais vous présenter la culture française, enfin, on va parler de la France, qu'est-ce que vous avez comme image, enfin,
ouais.
Parler en français, quoi.
Ouais. Ouais.
Et faire que de la discussion en français. Et du coup, il y avait cette assistante qui, elle, venait de Turquie,
ouais.
Donc qui était bilingue anglais, qui devait être prof d'anglais. Et elle avait fait Istanbul, donc elle vivait à Istanbul. Elle avait fait ses études à New York. Et là, elle s'installait dans un village, genre de 1000 habitants, en Autriche.
Ouais.
Et en fait, elle me disait qu'il y avait, et on en parlait, on s'était rencontrés du coup au sein de l'école, et je lui disais, mais comment tu vis en fait le fait d'avoir fait Istanbul, New York, New York, Istanbul, et Istanbul, Lilienfeld.
Parce que c'est massif, Istanbul aussi, c'est une énorme ville.
Je sais plus, il y a combien de millions de. Ouais. 13 millions, 14 millions, genre, ça...
Ah ouais, c'est méga grand.
Oui, c'est énorme. Le nombre d'habitants, c'est géant.
Ouais.
T'imagines New York, elle me dit, oui, Istanbul, pareil, c'est pareil, c'est une ville monde, mégalopole où ça s'arrête jamais. Et là, elle arrivait, après ces voyages-là, dans un village où elle était hébergée, d'ailleurs, on lui avait trouvé une petite maison, où elle était tranquille, toute seule.
Et ça allait ?
Bah, elle m'a dit au début qu'elle se réveillait parce qu'il y avait trop de silence.
Oh mon Dieu,
elle disait le changement était tel qu'au début, le corps comprend pas, il se réveille et puis il y a juste des oiseaux. Tu te fais réveiller par... Et du coup, je lui disais, c'est une belle prise de risque aussi, quoi.
Mais de sa part, ouais.
De sa part,
parce que c'est elle qui a décidé d'aller dans un petit coin paumé ou est-ce qu'elle s'est fait muter quelque
chose? Je crois que justement, on choisit pas trop. Enfin, tu peux choisir, si, par exemple, si tu vas faire assistante français, si tu es en Autriche, tu habites à Vienne. Normalement, ils te disent, vous travaillez soit à Vienne, soit dans la région de Vienne, quoi. Mais bon, la région, ça peut être assez loin. Ça peut être 1h30, 2h.
Ouais.
Donc, en fait, elle, je pense qu'elle n'avait pas choisi. Moi non plus.
T'avais pas vraiment choisi, toi ? T'avais été voir le consulat, comment ça se passe ?
J'avais vu, en fait, tu vas, ça peut être à l'ambassade ou au consulat.
Ouais. T'as fait comment, toi ?
Je crois que j'étais allé à l'ambassade.
Ouais.
Soit t'as des lycées français, enfin, là, j'avais été à l'ambassade et il y avait une annonce avec marqué « Nous recherchons pour l'année ».
T'étais pas venu en me disant « Je crois que je vais faire assistant français, ça va être mon boulot en Autriche ».
Ah ouais, non. J'étais juste allé à l'ambassade pour chercher du travail.
D'accord, ok. Ouais. Et t'as fait ça pendant 2 ans ?
J'ai fait ça pendant deux ans, ouais. Du coup, en fait, je suis même resté 2 ans et demi en Autriche, mais ouais, les 2 ans, ouais. 2 ans, j'ai fait ça, tiens.
Qu'est-ce qui t'a fait partir en Autriche ?
La vérité.
Ouais, bah ouais.
Tu veux la vérité?
Tu peux me mentir. Personne n'en saura rien. Je suis pas une balance, je la connais, la vérité. Mais si tu mens, je le dirai pas.
Ah, c'est dur.
Tu peux mentir. T'as le droit. Dans mon podcast, on fait ce qu'on veut.
D'accord, je vais mentir.
Je vais mentir.
Et personne n'en saura rien. Non, la vérité, c'est que j'avais rencontré une fille à Paris qui était autrichienne.
Et tu l'as suivie.
Et je l'ai suivie.
Bah pourquoi t'as peur de dire ça ? C'est vachement bien. C'est hyper romantique.
Oui.
Moi, je sais pas si j'aurais eu le courage moi, de faire ça, tu vois. Si je rencontrais une nana qui vient, je sais pas, de Berlin, tu vois. Parce que ça faisait pas hyper longtemps que vous étiez ensemble, si ?
Ah, ça faisait 6 mois, je
pense. Ah ouais, quand même, si t'as le temps de te
six
dire.
6 mois, t'as le temps de te. Encore qu'elle est arrivée février, mars. Ouais, si, c'est ça, ouais, 5-6 mois, quoi.
Et c'était une décision mûrie ou c'était un coup de tête où tu t'es dit, elle partait et tu t'es dit, oh, et puis fuck, je la suis.
Bah, je pense qu'il y avait un peu. Il y avait déjà l'envie de partir avant.
Ouais.
Et du coup, bon, bah, je crois que je me suis rapproché en plus d'une association d'Erasmus où des Parisiens aidaient les étudiants étrangers. À se retrouver dans Paris. Du coup, je cherchais un peu ça aussi. Je cherchais un peu le fait de rencontrer des personnes. J'avais cette idée de voyage déjà un peu en tête, même si c'était pas du tout mûri.
T'étais prêt pour le départ quand même.
Ouais, j'étais quand même.
Quand c'est venu.
Ouais, en fait, j'ai quand même fait. Elle est arrivée en février.
Ouais.
On est resté 6 mois ensemble. Il y a eu les vacances d'été. Et du coup, en vacances d'été, elle m'a dit viens. Viens à Vienne, quoi, viens en Autriche. Je fais carrément, je suis resté un mois entier. Je crois que c'était tout juillet ou tout août.
Et t'avais prévu de partir combien de temps ?
Non, normalement, les vacances, j'avais prévu de rester une semaine. Je suis resté un mois. En voyant la ville, j'ai fait, c'est fou, c'est génial, ça fait rêver, quoi. Ouais. Il y avait un truc, de toute façon, t'as toujours l'idée du voyage, donc tu t'en fais un fantasme aussi.
Ouais.
Du voyage, t'arrives, tu vois une réalité, mais là, la réalité, c'était août, le mois d'août.
Ouais, c'est ça.
Il fait trop beau.
Dans la réalité du quotidien, en fait.
Bah voilà.
Que tu passes une semaine ou que tu passes un mois, tu restes en vacances quelque part.
Mais c'est ça.
Après, t'y as vécu 2 ans et t'as vu une autre réalité. T'as pas forcément déplu, hein, par ailleurs.
Ah non, pas du tout. Mais c'est autre chose. C'est quand même autre chose. T'as toujours les vacances où c'est joli, tu vois des musées, tu vas te balader, bon, c'est très beau, tu fais. et tu te visualises un peu, tu te prépares un petit peu. Du coup, quand je suis revenu à Paris, ça me trottait dans la tête et je me disais, non, il faut que j'y retourne, quoi. Il faut que c'est ça, mon arc narratif, quoi. Comme tu dis si bien,
Ton arc
l'arc
narratif, c'était de
narratif,
partir en...
c'était de partir en Autriche. Mais il y avait quand même le choix aussi. Il y a toujours le choix où tu as quand même deux routes.
Ouais.
Où tu as quand même la route de dire, je vais rester à Paris. Je vais continuer à vivre ma vie à Paris. Ou alors il y a une autre route qui vient de s'ouvrir, qui est la route du voyage, en gros, qui est la route de l'expérience, qui est
D'une
la route de plein de choses, la route de
nouvelle
l'inconnu.
expérience, ouais.
Mais bon, pour moi, après, le voyage, c'est important.
Ouais.
Pour d'autres, ça peut être juste changer de boulot dans la même ville. Et
Ah oui.
ça va être un gros changement aussi de dire, bon, je prends un risque. Enfin, je change en tout cas, je sors de ma zone de confort.
Le risque,
Voilà.
ouais,
Il
je vois.
y a, y a, là aussi, c'est deux choix où tu dis, bon, je tente quelque chose d'autre. Je tente quelque chose d'autre. J'étais sur, entre guillemets, des rails, mais bon, qui me satisfaisaient plus trop.
Qu'est-ce que tu faisais à l'époque d'ailleurs?
À l'époque, j'étais en faculté de musique à la Sorbonne. Et j'avais même. Non, c'était concrètement ce que je
Musicaux ou
faisais.
c'était son?
C'était musicologie. Là,
Ah ouais.
c'était vraiment musicologie à la Sorbonne.
Ah
Et c'était ma deuxième année.
ouais. Ouais, d'accord.
J'ai
Donc au
fini la deuxième
final,
année, je dis.
t'es parti
Ouais,
quoi.
je suis parti.
Et...
Mais en même temps, il y a quand même cette peur-là, enfin, cette peur-là d'aller vers quelque chose d'inconnu. Parce qu'en fait, elle est réelle pour.
Pour moi, les grands changements de paradigme, il y a vraiment un truc qui me terrorise là-dedans, de mort en fait. Et quand je me rends compte que, au contraire de m'avoir tué, ça a rendu ma vie extraordinairement plus vivante qu'elle était avant, ça me dit que j'ai eu raison de sortir de cette zone de confort, qu'on appelle zone de confort, mais qu'on pourrait aussi bien appeler zone vitale, quoi, tu vois. C'est-à-dire que sortir de ce truc-là, c'est réellement se mettre en danger. Ou métaphoriquement, mais pour l'inconscient, c'est pareil au final. Quand tu vas vers l'inconnu, t'as peur de mourir quelque part, quoi. Et t'as ressenti, toi, cette libération quand t'es parti, par exemple, quand t'as acté le fait que t'étais en Autriche, que c'était nouveau, que tu reviendrais pas?
Et c'est vrai que tu as le moment où tu as toujours où tu prends ton billet de bus, de train, d'avion, enfin où tu te dis bon d'accord, ça paraît un petit peu plus concret. Puis quand tu es vraiment dans le bus avec toutes tes affaires
Ouais,
à
c'est
dire
spécial,
bon,
quoi.
mais il y a un moment, moi c'est ouais, j'ai
Mais la peur te...
T'acceptes en fait,
Ouais.
t'acceptes et puis en fait tu te dis bon maintenant c'est parti,
La
allez
peur te
c'est.
quitte quelque part, en fait. Enfin, la peur te quitte pas vraiment, mais je veux dire...
Ouais,
En tout
mais
cas, une...
tu l'acceptes mieux, je sais pas, il y a une sorte d'acceptation de la peur où tu te dis bon c'est parti, hein, on va voir, on sait pas ce qui se passe. On sait pas du tout ce qui se passe pour le coup, c'est l'inconnu quoi.
Ça me fait penser à une citation de Brel. Il dit ça en interview et il dit, je vais te la faire de tête, hein, donc je vais pas dire exactement ce qu'il dit, mais il dit, je crois que tout homme rêve de partir. Tout homme rêve de partir loin et de tout lâcher derrière lui, de partir à, qu'est-ce qu'il dit, je crois, Tombouctou, ou un truc comme ça, enfin, cette espèce de loin, quoi. Et il fait, mais ce qui est dur, c'est pas d'arriver à Hong Kong, à Tokyo, on va dire Tokyo, je crois que c'est Tokyo. Il dit, ce qui est dur, c'est pas d'arriver à Tokyo, c'est de quitter Paris. Et quitter Paris, ça c'est difficile parce que là vraiment tu quittes tes repères. Mais une fois que tu arrives à Tokyo, bah, tout s'arrange. Parce que ça y est, t'es dans ton voyage et tes ressources intellectuelles et physiques et morales se mettent en branle aussi. C'est-à-dire que enfin, justement, je crois que je me demande si je suis pas un peu dans le fantasme en disant ça. Parce que j'ai pas vécu ça moi, tu vois. Je suis pas parti loin et longtemps et seul. Et donc je me demande si je suis pas un peu dans le fantasme en disant ça, mais quelque part je pense que tu découvres aussi tes propres ressources en faisant ça. Et t'apprends aussi à leur faire confiance. Et moi il y a un truc où je doute vachement de mes propres ressources, mais parce que j'ai très 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 peur de me mettre en danger, tu vois. Quand je me mets en danger, je me découvre des ressources systématiquement. J'imagine que c'est pareil en fait quand tu vas là-bas, c'est-à-dire que tu...
En même temps, le danger, ça peut être un danger, encore une fois, de commencer un nouveau roman, c'est aussi une prise de risque en soi. De toute façon, toujours les changements sont une certaine manière. Pour moi, ça a toujours été, faut tenter quelque chose, quoi. Faut tenter quelque chose et voir. Mais c'est sûr que j'ai un peu plus de facilité à me dire, bon, bah, je tente quelque chose de nouveau. Parce que, voilà, pour le coup, j'avais fait ce voyage, et ce voyage en Autriche, c'était la tentative. Et c'est sûr que tu découvres automatiquement ouais, tes ressources, mais sans avoir vraiment prévu ce qui allait se passer.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est aussi, il y a des voyages que tu prévois, et tu te dis, bon, bah, je vais aller là, je vais visiter ça, je vais visiter... Et en fait, c'est ça, notre peur humaine, c'est de dire, bah... Même si je voyage, même
faut
si
que, je tente,
faut que je contrôle
l'expérience.
Faut que je me contrôle, faut contrôler tout. Est-ce que j'ai bien les billets? Et puis, et les histoires, en fait, qui sont marrantes, c'est quand les gens perdent leurs billets, perdent leur passeport, perdent leur téléphone. Ce qui n'est pas drôle, en vrai.
Non, en vrai, ça fait pas sur le moment,
c'est pas drôle du tout.
Mais quand tu repenses toujours systématiquement,
quand tu penses, tu te dis, d'une certaine manière, j'ai survécu. Tu vois,
ouais.
C'est vraiment ça. J'ai survécu alors que, bon, c'était pas si terrible.
Sur le moment, mais ce genre de truc, mais tu peux les vivre d'une manière.
Ah oui,
tellement
oui,
sale.
D'ailleurs, si t'es calme, bon, bah, tu vis juste ce qui est en train d'arriver. Tu te dis, bon, bah, tu contrôles d'ailleurs beaucoup mieux. Ouais. Quand t'es dans un stress, là, je sais que ça me faisait rire parce qu'avant, j'étais plus aussi dans une forme d'anxiété, de me dire oh, tout est dangereux, il peut y avoir des dangers un peu partout. D'une certaine manière, je me suis mis un peu à des moments en danger pour voir qu'est-ce que c'était vraiment ce danger que je fantasmais.
Ouais.
Mais ça, le danger n'était pas là. J'étais en Inde ou en Hongrie où ils ne parlaient pas anglais, et j'étais dans la ville tout seul et je demandais des trucs et je voyais qu'en fait, à un moment, j'ai pris du recul et je me suis vu. J'ai fait comme un dézoom,
ouais.
un plan large sur moi, en train de stresser, qui parle à quelqu'un, qui n'est pas du tout stressé. Je me suis dit, mais pourquoi t'es stressé en fait? Il y a zéro stress. Et à ce moment-là, j'ai eu un recul avec moi et je me suis dit, mais c'est marrant, il n'y a aucun stress, le gars il est en train de t'aider, il a l'air très cool, voilà. T'arrives à l'ambassade, t'arrives quelque part, t'arrives. Bon, voilà. Mais forcément, quand tu connais pas, t'as ce mécanisme.
Mais on voit trop de films aussi, quoi. On voit trop de films où, quand les gens ils sont à l'étranger, ils demandent de l'aide, ils se font capturer, ils se font torturer. C'est
vrai.
C'est quoi?
Après, bon, ça peut être aussi. Ça peut arriver aussi.
Ouais, ça peut arriver.
Ouais. Berne Manoche,
je veux plus. J'irai plus jamais voyager. Ça peut
arriver. Non, je pense qu'il y a des. Après, je suis pas du tout un pro du voyage, mais je pense que. Forcément, t'apprends à être plus posé, je pense.
Alors toi, ton médium de prédilection en art, c'est vraiment le cinéma. Qu'est-ce qui dans le cinéma t'attire tellement?
Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est marrant parce que quand t'as une passion, des fois ça peut être une passion pas dévorante, mais quand même qui te prend beaucoup de temps et... Toi, ça te passionne.
Ouais.
Tu vas essayer de montrer à d'autres gens,
ouais.
Ça va pas forcément.
ça va pas forcément
les passionner de la
vie. Ouais.
Alors que là, surtout que j'avais fait au lycée, du coup, j'avais le choix après, du coup, ma deuxième, troisième,
ouais.
Comme j'avais retapé ma troisième.
Ouais.
Et
les meilleurs retapent toujours.
Oui, voilà. La troisième, c'est bien, je crois.
La troisième, c'est bien.
Seconde, t'as beaucoup de. Quelque chose qui pense. Hein. Et en fait, j'avais le choix soit d'aller au lycée de Sèvres pour faire. Du coup, il y avait un BT musique, un brevet de technicien musique.
Ouais.
Soit il y avait le lycée Jacques Prévert à Boulogne,
ouais.
Qui était spécialisé dans le cinéma audiovisuel. Et il y avait 3 ans, en gros, le lycée, c'était la spécialité. Je crois qu'on faisait quand même 8 heures. Il y a eu 8 à 10 heures de cinéma, de cours de cinéma. Par semaine. Donc c'était trop bien. Et après le lycée, tu avais le BTS de Boulogne, du coup, qui te formait au métier de technicien du cinéma. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ah oui, j'ai envie d'aller découvrir vraiment le cinéma, mais plus de manière plus concrète. Je l'avais vécu sur un tournage.
Ah oui, parce que...
J'avais fait un tournage en quatrième.
Ouais.
Mais ça, je l'avais vraiment vécu en tant que jeune comédien.
Ouais. Mais t'avais un gros rôle dans un téléfilm en plus.
Oui,
T'avais
c'est vrai
passé du temps
que.
sur un tournage.
Ouais, c'était un mois et demi.
Ouais, t'avais fait un mois et
Ouais.
demi de tournage. Enfin, vraiment une expérience de comédien professionnel,
Ah
sur, pour le
oui,
coup,
c'était
quoi.
vraiment. Ouais. Enfin, en tout cas, la grosse expérience à cette époque-là, c'était la grosse expérience. Mais sauf que en tant que comédien, c'est vrai que tu t'es accompagné, tu dors, enfin en gros, tu dors à l'hôtel. Si tu tournes à l'extérieur, tu dors à l'hôtel, on vient te chercher, on te maquille, toi tu lis ton texte, ton scénario, on t'amène sur un plateau de tournage où tu as tous les techniciens qui sont là, t'attends, on te sert à manger, on te sert à boire, t'es vraiment comme un coq en pâte. Puis après, on t'amène devant la caméra, et voilà, il y a un réalisateur qui dit, bon, tourne cette scène, voilà, c'est parti. Et en fait, c'est après, voilà, tu finis ta scène, hop, on te ramène soit à l'hôtel, soit. Moi, comme j'étais en quatrième, on allait faire des cours, on rattrapait les cours. Du coup, on allait dans une salle avec un prof, un précepteur de tournage. Du coup, lui, il devait trop se marrer. Enfin, il était sur le tournage et il donnait des cours à trois enfants qui jouaient dans le téléfilm. Et en même temps, tu vois en tant qu'enfant le monde du tournage, donc c'est un peu, là aussi, c'est fantasmé. Et du coup, je pense, le fait après de me dire, mais concrètement, qui fait quoi, qui fait. Je posais des questions sur le tournage, je demandais un peu, je voyais qui faisait quoi, mais c'était pas très très clair. Du coup, après la troisième, c'était pour moi, je me suis dit, ah, j'ai envie de voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans le cinéma audiovisuel. Et voilà, ça a duré 3 ans. Et on regardait tout le temps des films. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà, moi, j'en regardais beaucoup en quatrième.
Ouais, toi t'étais. Je
Je
me rappelle que
regardais
tu passais ton temps à emprunter des films à la
à la
bibliothèque, à
bibliothèque,
les
ouais.
rendre, mais je crois que.
J'en regardais.
T'avais vu tellement de films déjà au collège, je me rappelle, tu me citais des trucs. Ouais, tu devrais aller voir Brésil, c'est trop bien, tu devrais voir ça, c'est trop bien. Midnight. Comment
Midnight
c'est?
Express.
Midnight Express, alors toi t'adorais, je me rappelle cette
Ah,
scène à la fin où il engueule les gens. Alors
Midnight
Midnight
Express, c'est
Express,
terrible hein, comme
ouais,
film.
mais
C'est une
c'est.
vraie histoire. Hein. C'est
Ouais,
quelqu'un
ouais,
qui a
c'est.
caché de la drogue, qui s'est fait enfermer pendant 10 ans en Turquie dans une prison turque et qui s'échappe à la fin. Il aurait pu mourir dans la prison turque. C'est filmé en plus de manière tellement réaliste.
T'as vu ça à quel âge?
Je crois que c'était à ouais, 14, 14-15 ans. Enfin, c'est le cinéma en même temps forme, tu vois, d'une certaine manière, il forme
Mais ça t'a mis dans
à
l'âge
vie,
adulte
quoi.
en fait ce truc-là quoi.
Ça a mis, ouais,
Parce que je
ça
veux
a
dire,
mis,
tu vois
ouais.
une prison turque à 14 ans,
T'es pas bien.
même au cinéma,
T'es pas bien du
parce
tout.
que tu t'identifies en tant que spectateur à ce que tu vois
Complètement,
quoi.
complètement.
T'es là, tu te dis merde si j'étais dans cette prison, oh là
Ah
là.
oui, le gars, juste, bon, bah, il ramène de la drogue en France, ce qui est dans les années 70, et c'est tout de suite, c'est dès le début, il arrive sur le tarmac pour prendre l'avion, et il y a des flics qui
Ah oui,
l'arrêtent,
d'accord,
et
c'est
il y
pas
a
du
sa
tout comme.
copine qui monte dans l'avion qui fait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les flics arrêtent le type, et genre, après, le film va s'écouler sur les 12 ans d'après, 10 ans, 12 ans, c'est horrible, c'est horrible.
Moi
Et en même temps, ouais,
j'avais vu Prison Break, moi.
ça fait peur
Ouais, grave.
aussi.
Le mec qui est pas prêt pour
Ça
voir.
fait
Le mec
peur.
qui est pas prêt pour voir les vrais films, tu
Ah,
sais.
mais Midnight Express en plus, c'est. Mais ouais, je crois que c'est marrant parce que, comme quoi, c'est sûr que, voilà, moi, 2046 par exemple, on l'avait déjà vu au cinéma, en classe, et on avait des professeurs qui étaient passionnés de cinéma. Et en gros, qui nous faisait regarder, analyser comment ça se passe, qui travaille sur le tournage, un peu les différentes caméras. Bon, c'était pas aussi développé, mais en gros, on analysait des films, quoi. On regardait des films, on regardait comment c'était fait. Du coup, le fait d'être plongé un peu dans une formation, entre guillemets, c'est une spécialité, mais, du coup, à regarder plein de films, déguise un peu ton regard, enfin, du coup, tu peux regarder plein de trucs.
Oui, ça te fait moins souffrir de voir un truc lent, par
Oui,
exemple, parce que
voilà,
tu
c'est
sais
ça.
pourquoi c'est lent, que tu sais ce
Voilà,
que ça dit,
tu sais à peu près la période. Enfin, du coup, on t'a plongé un peu dans un bain, et c'est au début, t'apprends pas à nager, après, t'apprends à nager, c'est agréable, et tu peux voir beaucoup plus de choses. Mais après, moi, c'était un peu mon trip que j'avais pas compris à l'époque, c'est que j'emmenais voir des potes j'en venais voir des potes qui n'avaient pas,
qui n'avaient pas ce truc-là,
et de dire ouais, putain, va voir ce film. C'est vrai qu'en plus, moi j'étais très très chiant, par exemple, avec mes frères et sœurs, et je me rends compte à quel point aussi on peut être. Tu vois, dans un milieu où. Je sais pas, n'importe quoi, dans une entreprise. Et en fait, être détaché du reste du monde, entre guillemets. Et je disais à mes frères et sœurs qui regardaient la télé normale, quoi, qui étaient beaucoup plus jeunes, je leur disais, faut regarder la merde. Et je pense que j'étais insupportable. Et je leur ai dit, ouais, je suis désolé. Ils regardaient ce qui se passait à la télé, quoi.
Ouais, c'est ça.
Star Academy, les trucs de l'époque. Partout, quoi. Voilà, ils regardaient, des, je sais pas, n'importe quoi, des cassettes VHS. Et je les engueulais, limite. Et j'en ai eu honte, tu vois, il n'y a pas longtemps. En reparlant, c'était un peu le... moquerie, je leur ai dit, désolé, c'était de regarder des films, enfin,
c'est quand c'est on, la est jeune, on est un peu intransigeant comme ça, tu sais, quand moi, c'était un peu pareil, ouais, quand, dès que je voyais quelqu'un que j'aimais bien faire un truc que je considérais comme pas assez bien, tu vois, ou pas assez intello, ou pas assez machin, ça me mettait dans des états où je me disais, mais attends, pareil, tu vois, ouais, c'est de la merde ce que tu regardes, comme si ça allait lui faire changer d'avis, tu vois, genre, comme si, mais même, comme si les gens, ils avaient un avis tranché sur ce qu'ils regardaient, tu vois, genre, juste, laisse-le tranquille, il est devant sa télé, tu vois. Moi, je suis pas certain que j'arriverai à devenir un vrai cinéphile un jour ou l'autre. Tu vois, par exemple, moi, j'adore les séries un peu nulles, tu vois. Genre Legends of Tomorrow, qui est une série de super-héros sur CW, qui est genre la chaîne poubelle de la télévision américaine. C'est notre AB1 à nous, tu vois. C'est ceux qui font le Arrowverse avec la série Arrow, la série Flash, la série Batwoman, qui est en train de se faire. Le truc est pas sorti, tout le monde est déjà en train de cracher dessus, tu vois. Genre, ouais, on y a rien. Non, bref. Et ben dans toutes ces séries, si tu veux, ils ont Legends of Tomorrow, mais qui est genre le truc le plus cheap que t'as vu de la Terre, quoi. Et moi, j'adore cette série, j'ai vu les 3 saisons 2 fois, parce que je trouve qu'il y a justement il y a des arcs narratifs de personnages qui sont vachement touchants, tu vois. Et je te rappelle pas, je t'avais montré la série Flash. Et la série Flash, je crois qu'il y a un truc qui me touche quelque part, c'est que c'est de l'abattage ces séries. Ils ont encore 24 épisodes par saison, ils sont dans leur costume tout le temps, c'est hyper physique. Et sur les derniers épisodes de saison, tu vois les acteurs épuisés qui n'arrivent même pas à tenir leur scène jusqu'au bout, quoi. Et genre, ils se regardent à la fin et sort, c'est l'acteur qui regarde un autre acteur avec un air de se dire « Bon allez, on finit la scène et puis... » et puis on passe à autre chose parce que vraiment je suis crevé.
On y va. Bah en même temps c'est la réalité. Hein. C'est la réalité des films. Je pense que ce qui est bien c'est que tu vois avec les séries t'as pu aussi montrer aussi un moment de dire mais il n'y a pas que... D'ailleurs même Von Carway on s'en moquait au lycée.
Ouais.
Ah par exemple c'était une blague. Tu vois, c'était une blague dans la classe parce que la prof... C'était une très bonne prof, mais elle adorait Von Carway, c'était vraiment son réalisateur. Mm. Et ça en devenait une blague, du coup c'était un réalisateur magnifique. C'est vrai qu'il fait des films très beaux, très romantiques, mais très très atmosphériques. Mais c'est très beau pour le coup. C'est vrai que peut-être sans avoir aucune explication, quelqu'un qui n'aurait jamais vu d'ailleurs aucun film de sa vie, il peut être touché quand même. Quoi. Sans connaître le nom du réalisateur, mais je trouve que c'était le... Voilà, c'est la force de la culture en général, mais la force d'un film aussi, ça peut être tu montes le film, et voilà, et ça peut parler de lui-même, quoi. Enfin, un film ou une série ou quelque chose.
Sans avoir aucun contexte.
Voilà, aucun contexte, tu vis pas dans la même ville, tu vis pas à la même époque, tu... Et bon, car ouais, il y avait cette chose-là.
T'as des exemples de films qui t'ont marqué comme ça sans connaître rien, tu t'es foutu devant un film et ça t'a estomaqué alors que t'étais pas a priori programmé pour aimer ce genre de film.
Le tout premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Blanche-Neige.
Ouais.
C'était un dessin animé, donc pour moi, dessin animé voulait dire quelque chose de rigolo.
Ouais.
Donc parce que j'avais la télé allumée avec le matin, les dessins animés rigolos, j'arrive devant Blanche-Neige qui te met une claque dans la tronche.
C'est le Blanche-Neige de Disney.
Le Blanche-Neige de Disney, ouais. Et après, j'avais regardé d'ailleurs les autres Disney, mais c'était un peu le... Mais le voir au cinéma, en fait...
C'est vrai que Blanche-Neige, c'est sombre. Hein.
C'est très sombre, c'est très très beau aussi visuellement, parce que c'est un truc... Pour l'époque, déjà, c'était très beau, mais même tu le revois encore maintenant, tu vois. C'est... Après, c'est un Disney, mais quand tu... connais pas en tant qu'enfant, t'arrives là-dedans, truc où c'est mignon, t'as des petits, t'as des, t'as... Mais en fait, il y a quand même quelque chose de dur, quoi.
Avec la vieille et sa pomme, là. Quelque chose de... grands yeux qui font peur et
c'est,
tout.
C'est assez terrifiant, quoi. Ouais, ouais. Quand même, on va tuer, en plus,
l'héroïne, quoi. Cette femme qui vieillit, qui veut tuer la jeunesse chez l'autre.
Ah oui. Ouais. Qui tue l'héroïne, qui est un peu la vision de la pureté, toute belle, qui chante. Mais quand t'as la vision d'enfant, je pense que tu reçois les choses, tu les ressens. Et après, tu te dis, ah oui, tu peux comprendre, mais c'est ça qui est assez beau aussi dans l'image, c'est que, bon, bah, comme une musique, on va te présenter quelque chose et tu vas recevoir, et pas forcément obligé d'intellectualiser ce que tu es en train de voir.
Bien sûr.
Du coup, ça, que ça soit une série, n'importe quoi.
En fait, on intellectualise après coup. Oui, quand on est face à un film, on est dans le plaisir ou dans la peur ou dans la tristesse. Quand c'est un drame, on est beaucoup plus dans l'émotion quand on est dans un... C'est l'explication vient après. Et elle n'est pas toujours nécessaire, à vrai dire. Mais ce qui est marrant, c'est que tu me parlais de Blanche-Neige comme étant ta première expérience de cinéma, du coup.
Ouais.
Et on est immédiatement parti sur cette femme, donc la reine, qui veut tuer la jeunesse et qui est en fait jalouse de la jeunesse et de la potentialité. Des potentialités de Blanche-Neige. Ce qui est marrant, c'est que Météora, c'est un monde où les adultes veulent modeler les enfants selon leurs vœux. À savoir avoir une armée d'enfants qui exécutent les désirs des adultes, désirs guerriers en l'occurrence. C'est pas si éloigné en fait. Ouais. C'est un thème, j'ai l'impression, qui, quand même, dans tes obsessions personnelles, obsessions artistiques en tout cas, revient énormément. La mainmise injuste des adultes sur les enfants.
Ouais.
C'est peut-être un peu...
D'ailleurs, c'est assez...
Mais le rapport, ouais, de domination, en tout cas, et l'absence de bienveillance, en fait, quelque part. Parce qu'il n'y a pas de bienveillance, aucune bienveillance dans la... De la...
En tout cas, il y a une incompréhension, je pense, il y a une incompréhension entre le monde des adultes et le monde des enfants, ouais. Du coup, dans Météora, c'était ça, ça me parlait beaucoup. Je crois que j'avais même vu un documentaire, grâce d'ailleurs au lycée cinéma audiovisuel, on avait vu aussi toute une série de documentaires. Et là, c'était, je crois qu'il y avait deux documentaires qui m'avaient parlé, un sur les enfants à Pékin, qui se formaient pour être des athlètes de cirque. Et du coup, comme Jackie Chan, il avait fait, je crois, cette formation. Une formation impressionnante où tu voyais des enfants qui étaient très jeunes, qui faisaient des choses d'adultes, en fait, qui se formaient physiquement, mentalement, à être des athlètes, mais pour le cirque. Mais le cirque, voilà, à Pékin, c'est quelque chose de très très haut, quoi. Du coup, c'était une très grande qualité. Mais on voyait l'effort, quoi. La caméra vraiment filmait leur transpiration, leur fatigue intense.
Leur souffrance.
Leur souffrance aussi. Oui. Parce qu'en fait, c'était des enfants, ils rêvaient d'être artistes de cirque. Et à la fin, en plus, la scène de fin, vraiment la scène de fin, c'est un jeune, je sais plus, de 10 ans, enfin, 70 ans, qui fait une prestation de danse. Et c'est très beau en même temps. Tu fais... Et ça te pose des questions. Tu te dis... Il a souffert, il a fait tout un... Il était jeune, et tu te dis, mais c'est paradoxal. Et en même temps, ce que je vois à la fin, c'est beau. Mais ça te fait quand même te poser des questions, te dire, est-ce qu'on n'essaie pas de mettre trop vite un enfant dans un monde d'adultes, d'ailleurs, qui...
Bah c'est ça, oui, c'est-à-dire que c'est une pression qu'on inflige généralement aux adultes. Bah, typiquement, en Occident... À part dans des cercles très fermés d'excellence musicale, d'excellence de danse, etc. Mais je crois pas qu'on arrive jusqu'à un tel point qu'on peut avoir, par exemple, chez les enfants qui font les enfants qui étudient pour devenir des moines Shaolin, tu vois.
Oui.
Ils sont pareils, ils ont un entraînement, mais de malade mental. Pour nous, en fait, qu'on considère comme un truc de malade mental. Peut-être d'ailleurs que...
Non, je pense que quand même, c'est un entraînement.
ouais, bien sûr. Mais
pour tout le monde, c'est même pas... Je pense qu'il n'y a pas un rapport de... De demander à un enfant d'apprendre à faire des pompes et des pompes et des tractions. Et c'est ça aussi le cirque de Pékin. Enfin, tu vois aussi leur corps qui change, mais tu vois qu'ils se renforcent. Donc tu te dis, ah, c'est bien, mais tu vois qu'ils se contorsionnent aussi, ils apprennent à faire des contorsions, il y a quelque chose de... il y a un paradoxe où tu dis un enfant de... c'est pas ça, enfin il a un développement naturel, là c'est pas naturel, il y a quelque chose de... Donc en fait si, même pour même d'ailleurs les gens qui sont interviewés aussi dans le documentaire en Chine disent oui, c'est une grosse formation, c'est très dur, c'est très intense. Et quand tu vois ça, tu te dis oui, ça peut être moi, ça peut être n'importe quel enfant autour du monde. C'est pas en fonction même de la... Bon, il y a la culture chinoise, mais c'est tu vois des enfants qui font des pompes. Et à un moment, tu es un peu fatigué aussi pour eux, quoi. Tu ressens leur propre fatigue et tu te dis, mais non, un enfant, cet âge-là, il va jouer, il va découvrir le monde, je pense. Et tu vois ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu... c'est une thématique que je creuse un petit peu en disant, oui, même par rapport à les anciennes générations, du coup, mes parents, mes grands-parents, que tu deviens jeune aussi, tu deviens adulte beaucoup plus tôt. Même mes parents aussi, c'était mon oncle, il s'était marié à 18 ans. Ça paraissait normal pour moi, je me disais, 18 ans, son premier enfant, 19 ans,
c'est hyper tôt.
C'est très tôt. Quoi.
De nos jours.
Mais de nos jours. Mais bon, ouais, ça pose, ça pose des questions de scolaire. Ah oui, oui. Et même au niveau de l'école, c'est te dire. Tout de suite, qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu dois faire, ce qui est quand même une certaine forme de pression, sans qu'on veuille te mettre vraiment une pression. On te dit, tu vas faire quoi l'année prochaine?
Qu'est-ce que tu vas faire
l'année prochaine? Et l'année prochaine, il y a un décalage où tu te dis, mais on laisse pas le temps, en fait. Il n'y a pas un rapport de temps, de temporalité, de dire... Attends, mais prenez le temps, en fait. Prenez le temps de voir qu'est-ce qui vous plaît. Vous avez 18 ans, vous avez 14 ans, vous avez... Et chaque année à l'école, on te dit un peu, toi, t'aimes bien le sport, toi, t'es bon au sport. Et puis, dans ta tête, tu te dis, bon, je suis bon au sport, bon, je vais faire du sport, puisqu'on m'a dit que j'allais faire du sport. Sauf que,
j'ai pas envie de faire du sport.
Dix ans plus tard.
Tu sais pas, en fait, t'as pas eu le temps de voir ce que t'aimais, en fait. Il y a plein de trucs que t'as pas encore vu. Et si ça se trouve, tu seras engagé à mort dans des études, de médecine ou des trucs qui demandent un engagement de dingue. Et puis tu vas découvrir un truc qui te plaisait beaucoup plus.
Complètement.
Et va falloir beaucoup de courage à ce moment-là pour quitter le trajet qu'on t'a mis, quoi. Et il faut beaucoup de courage pour quitter une trajectoire qu'on a mis pour toi.
Ouais.
C'est marrant parce que. J'ai l'impression que toi, justement, t'as fui les trajectoires nettes. T'es jamais resté très longtemps sur un chemin précis parce que... et ça, c'est un truc que je vois en commun avec pas mal de créateurs, et moi y compris, parce qu'en tant que créateur, t'as besoin d'appréhender plusieurs facettes de la réalité.
Mais en même temps, je pense qu'après, tu peux finir un parcours. Pour moi, à chaque fois...
Ouais.
Je voyais ça comme juste de l'expérience que j'accumulais, donc je me disais pas je vais finir un diplôme parce qu'il faut que je finisse un diplôme, c'était plus je vais prendre de l'expérience et pour moi c'était... Après en fait c'est bien d'avoir, de finir un peu une formation, d'aller un point A jusqu'à un point B, de finir, c'est... Mais après c'est sûr que le problème c'est... Tu peux commencer dans une formation, tout finir, et puis à un moment, tu te dis, j'ai tellement fait d'études là-dedans qu'il faut que j'en fasse un métier. Il faut que maintenant, tout ce que j'ai accumulé, donc j'en fais un métier, puis je commence ce métier. Et puis la vie fait que tu te dis, je suis dans ce métier. Ce métier me permet de gagner de l'argent, cet argent il me permet de me loger, de me nourrir, et du coup tu restes.
C'est là que t'es piégé.
Et en fait... c'est pas forcément un piège, ça peut être aussi un apprentissage, mais vraiment tu te dis à un moment tu peux te retrouver en te disant j'aimerais bien faire autre chose. Et il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient un peu plus vieux ou pas, et qui se disent non, c'est pas possible de faire autre chose.
Et moi j'ai jamais fini mes études de philo un peu pour ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me suis retrouvé sur le point de finir mes études de philo, j'ai eu cette espèce de mais de panique quasiment, tu vois, où je me disais, mais bon, alors c'est quoi après là? Et moi, une carrière, ça me terrifie. Vraiment.
C'est un peu.
Un job que tu gardes plusieurs années.
Mais alors que, ouais, je sais pas, nos grands-parents, mes grands-parents, ils avaient pas ce rapport-là, parce que je pense que tous les deux, ils avaient fait des études. Après, ils sont rentrés à la Poste. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé dans l'administration de la Poste. Ouais. Tous les deux, ils ont un peu grimpé. Enfin, bon, bah, ils ont travaillé à la Poste toute leur vie. Et, mmh. c'était leur cadre, et ça leur allait très bien. Je pense que maintenant, bon, c'est plus éclaté. Le monde du travail, tu peux travailler de chez toi, tu peux travailler... T'as un ordinateur, une connexion internet, bon, bah, y en a qui travaillent n'importe où, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et c'est beaucoup plus ouvert, du coup. C'est vrai que ça remet beaucoup de choses en question aussi. Tu te dis, je peux faire plein de choses, du coup, tu sais pas forcément quoi faire, quoi. Il y a trop de choix. Ouais. Tu te dis, il y a beaucoup trop de choix, donc du coup, tu te dis un peu, c'est... Et après, en même temps, c'est ça, c'est vrai que tu vas commencer... Moi, c'était plus mon tempérament de dire je vais essayer des expériences, mais c'est vrai que je pensais pas en termes de carrière. Et je crois que par exemple, le lycée audiovisuel aurait voulu que je fasse un BTS, parce que j'étais même dans le lycée, je voulais faire un BTS. Je me disais en tant qu'artiste, pour écrire quelque chose, si je reste dans les carcans, moi j'avais l'impression que j'aurais pu faire un BTS. Après, un BTS c'est très technique pour le coup. Donc j'aurais fait soit montage pour apprendre le montage, ou son pour apprendre l'enregistrement sonore. Il y avait la caméra aussi pour comprendre comment fonctionne une caméra, comment filmer. Donc c'est très bien aussi puisque tu connais les techniques qui te permettent après d'être de créer aussi. Mmh. Ou de rentrer dans des écoles comme la FEMIS, comme les écoles de cinéma. Et moi, je ressentais un peu ça, je me disais, ma personnalité a envie d'avoir des expériences différentes pour expérimenter d'autres choses, pour avoir d'autres choses à raconter. Et pas être forcément, suivre les rails, c'est sûr qu'on a l'impression de rail, après en même temps ça peut être très bien.
C'est vrai que tel que tu me le dis, tu vois, quand tu me parles du BTS, justement d'apprendre le travail de la caméra, le travail du son, tous ces travaux-là, quelque part c'est vrai que tu gagnes à accumuler de l'expérience de vie, mais au sacrifice en fait d'une technique qu'un mec qui sort de BTS possède clairement, tu vois, et distinctement.
Oui, enfin, après, pas forcément, c'est un
métier.
Oui, c'est le métier. Oui, après, t'apprends le métier.
T'apprends les bases, en fait.
Parce que, oui, t'apprends les bases, tu travailles déjà en BTS, tu travailles déjà, tu fais du montage, t'apprends à faire du montage. Et c'est bien, parce qu'après, bah, tu sors du BTS, c'est 2 ans, et tu fais tes monteurs. Mmh. Si t'as fait du montage, t'es monteur. Voilà, concrètement, c'est... Mais bon, t'es monteur, voilà. T'es monteur, tu fais du montage et... Et ça ne sera pas tout, tu peux changer encore une fois. Et c'est vrai que moi je me disais, cadreur, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, le montage ça m'intéresse aussi, enfin, le cadre aussi, le son aussi ça m'intéresse, mais... Et j'avais peut-être un fantasme aussi de dire, je vais apprendre, qui est devenu aussi une réalité, c'est-à-dire d'apprendre d'autres choses, de sortir un petit peu de ça, donc c'est sûr qu'on sort un petit peu d'un système entre guillemets. Maintenant le monde du travail étant qu'on peut revenir aussi refaire des formations, il y a plein de choses qui existent, du coup c'est assez ouvert, et je trouve que il y a un peu besoin d'ouverture, en tout cas, que seulement rester dans un cadre où en fait le cadre te fournit énormément d'expérience, et tu sais pas ce qu'il y a à l'extérieur, tu n'oses pas aller regarder, tu te dis non, je veux rester dans les bons cadres. Du coup, finalement, il y a quelque chose de fermé, enfin, pour moi, il y a quelque chose quand même de fermé. Ouais. On ne peut pas dire, quand tu vas expérimenter quelque chose qui sort du cadre, bah, c'est comme sortir, c'est comme aller voir de l'autre côté d'un mur, quoi. C'est pas le mur, il est là pour te protéger. J'imagine toujours dans un château fort, quoi. T'es dans un château fort, c'est un beau château fort.
Ouais.
C'est très beau, c'est très agréable. T'es dans le château, tu vois la vie du château, c'est magnifique. T'as des murailles, enfin là c'est très visuel.
Ouais.
Sauf que t'es dans le château, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. L'extérieur fait peur en fait. Comme un conte, comme dans un conte,
ouais, c'est
ça. Me dit, il y a la forêt, il y a le parc, il y a la montagne.
Et
tu te dis, tu vois là, il y a les monstres, il y a les monstres, il y a les dangers. Tu dis, non, non, je reste dans mon château c'est parfait, c'est ça en plus.
D'ailleurs, il y a de la nourriture à
faire. D'ailleurs, il y a de la nourriture, il y a tout ce qu'il faut, voilà, il y a tout ce qu'il faut dans le château. Et d'ailleurs, tu sais même pas, si on te parle pas de la nature qui est à l'extérieur, bah, tu seras dans le château. Et peut-être qu'un jour, tu vas monter en haut du donjon, et puis, merde, en fait, tu devais pas monter en haut du donjon, parce que tu viens de voir qu'il y a la prairie dehors, tu vois. Ça fait très imagé et très fantasmé, tu vois.
C'est marrant, c'est que dans les contes, le héros part toujours, ou l'héroïne part toujours. En fait, ce que tu recherches, c'est la liberté, quoi. Au fond,
ben...
c'est l'aventure, c'est la liberté, c'est mine de rien, tu juges pas les gens, hein, ça se voit d'ailleurs quand tu juges pas les choix de vie, mais toi le tien, j'ai l'impression en tout cas que il suit pas un chemin tout net et bien défini, et je pense pas que ce sera le cas un jour. J'espère pas pour toi que ce sera le cas un jour, parce que j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ton tempérament en fait.
C'est plus s'écouter, c'est bizarre parce que. En fait, une société qui est, enfin pour moi, une société qui est bonne, c'est quand les gens s'écoutent eux-mêmes et se disent ah oui, je rêverais de faire un petit parc ou de créer quelque chose dans mon quartier. Il manque un parc. Et les gens écoutent, des fois se disent ben non, mais c'est compliqué en fait. Il faut que j'aille à la mairie, il faut que je fasse. Là j'invente quelque chose, j'en sais rien, mais quelqu'un qui aurait l'idée de se dire dans ma ville je veux avoir un petit endroit de nature qui soit bien pour les gens, bah des fois c'est les gens vont se dire tout de suite ah non, c'est décourageant,
il y a masse de trucs, il y a
des dossiers, c'est long, ça peut prendre des années pour que la mairie dise oui en fait ça y est, on a un budget, on fait un parc,
pour juste faire un petit parc
oui bon, il y a d'autres choses à faire.
Ouais, tu finis par
et
te
du
demander.
Du coup, si à un moment, tu te dis, bon, tu peux abandonner en fait. Tu peux toi-même, ton petit parc, te dire, bon, bah. C'est vrai, c'est peut-être pas un petit parc, c'est dommage quoi. Alors qu'en fait, si tu te dis, bon, bah, ça va prendre du temps, c'est du temps en fait. C'est quand t'apprends à. Alors que je gérais très mal le temps, je gère pas toujours très bien le temps. Et je me rends compte que il y a toujours eu ce rapport, tu vois, ce rapport de temps un peu donné, et en même temps de dire bah il faut se presser, les choses doivent avancer assez, ouais. de manière dynamique,
ouais,
donc j'étais plutôt un enfant qui disait ok faut faire les choses, essayer d'apprendre le plus possible de choses. Et à un moment, le moment où tu te poses pour de vrai, et moi j'étais même un peu anxieux, un peu stressé de ça, pour moi ça a été la libération d'arriver. Bah, je pense que l'Autriche c'est quelque chose aussi de très, beaucoup plus calme, quoi. T'es entouré de montagnes. Et en même temps, un moment d'arriver à te dire. Je crois qu'il y a une expérience qui est marrante, enfin c'est un peu une anecdote, c'est qu'il y a un moment où je prenais le train du coup pour aller. Au lycée, et il neigeait énormément, c'était pas comme en France, c'est genre la cata, quoi. Là c'est vraiment la grosse neige, et t'es dans un petit wagon de train dans la campagne, et à un moment le wagon s'arrête, quoi, mais au milieu de nulle part en fait. Et toi il est 7h du mat, même je crois qu'il était 6h ou 6h30, et t'as de la neige qui tombe, qui s'arrête pas de tomber, et le train s'arrête.
Il fait nuit alors du coup.
Il fait nuit, nuit. Et tu regardes et tu fais, bon bah, putain, je sais pas, t'as deux personnes dans le petit wagon, c'est un seul petit train, quoi. Puis t'as les gens qui sont là, qui attendent, puis tu te dis, qu'est-ce qui se passe en fait là? Faut que ça démarre, quoi, qu'est-ce qui se passe?
T'as la colère.
Et tu te dis, putain, je vais être en retard, mes cours, machin. Mais toute façon, ça avance pas là. Le train, il est bloqué, il y a la neige. Ouais, voilà. Et toi, t'es tout seul dans ton wagon, tu dis, mais putain, qu'est-ce. Et à un moment, en fait, dans t'acceptes. Ta tête, voilà, t'es dans ta tête, t'es en mode, putain, il faut que les choses bougent. Faut... Et puis en fait, tu te poses à un moment, et tu te dis, bon, bah, attends, là, t'es dans un petit train qui n'avance plus. Et à un moment, le gars, le conducteur, dit, en allemand, en dialecte allemand, genre, bon, bah, en fait, il faut descendre. Le train marche plus, là, c'est des petits trains,
de campagne. Entre deux gares.
Entre deux gares, mais la gare était super longue. Wow. Genre, t'as la neige partout. Puis bon, en fait, les gens, ils descendent, tu vois, devant toi. Ils se disent même pas, oh, on va l'aider le petit jeune ou quoi, c'est juste qu'ils se cassent. Et moi, je me retrouve dans le train, en mode, what the fuck, où est passé le conducteur? Il n'y a plus personne. Le conducteur est pas là. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce que je fais? C'est la nuit, c'est ça, c'était. C'est une nuit, il neige. Et genre, et tu te dis, putain, alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et du coup, là, il y a un espèce de monde qui s'ouvre et qui te dit, bah, maintenant, tu sors du train et voilà, tu vas marcher et tu vas essayer de trouver des gens. Et voilà, et j'ai marché dans la neige comme ça en me disant, bon, bah, faut y aller, quoi. Faut marcher et puis avancer et puis voir ce qui se passe. Essayer de trouver quelqu'un et puis à un moment, t'as plus le poids de dire, oh, je vais être en retard au boulot, je vais être... Non, t'en sais rien, t'es paumé, il y a juste de la nature partout, t'as de la neige, t'as aucun village, t'as vraiment rien, quoi, c'est le blanc de la neige, du coup, tu fais... Donc, tu regardes ton portable, bon, bah, pas de réseau, c'est pas grave, en fait, pas grave, je suis sur la route, en train de marcher, voilà, c'est ça, ma vie. Et à un moment, tu te détends, en fait, et vraiment, tu te détends face... Ce qui peut se passer, tu te dis, bah, ouais, quelle importance, c'est marrant, je suis en train de vivre un truc marrant. De toute façon, je peux rien changer concrètement, il y a juste à marcher, quoi. Voilà. C'est juste ça.
Sébastien, merci.
Ouais.
Merci pour cette anecdote. Elle était très drôle et très belle en plus. Cette image dans la neige, je marche et voilà, c'est ma vie. Je marche dans la neige, il est 6h30 du matin. Et voilà. Et puis un champ de neige, c'est ouvert, quoi. Alors, c'est la fin de ce podcast. On arrive sur la fin. Je te remercie beaucoup de nous avoir donné de ton temps et de ta vie et de tes anecdotes et de tes expériences. On a une tradition à toutes sortes de gens, c'est que l'invité ramène un texte qu'il a choisi. Est-ce que tu veux nous dire quel est ce texte?
Donc, il a été écrit par Charles Bukowski. Donc, le texte s'appelle « L'oiseau bleu ». Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis... Reste là, je ne veux pas qu'on te voie. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je verse du whisky dessus et inhale une bouffée de cigarette. Et les tapins et les barmen et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, tiens-toi tranquille, tu veux me fourrer dans le pétrin? Tu veux foutre en l'air mon boulot? Tu veux faire chuter les ventes de mes livres en Europe? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir. Mais je suis trop malin. Je ne le laisse sortir que de temps en temps, la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que t'es là, alors ne sois pas triste. Puis je le remets, mais il chante un peu, là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir. On dort ensemble, comme ça. Lié par notre pacte secret. Et c'est assez beau. C'est assez beau pour faire pleurer un homme. Mais je ne pleure pas. Et vous?
Merci Sébastien. Et bien ainsi se conclut le 5e et dernier épisode de la première saison de Toutes sortes de gens. Je te remercie encore une fois Seb d'être venu sur le podcast. Et je vous dis à septembre prochain pour la 2e saison de Toutes sortes de gens.